Oui. Alors aujourd'hui, on se penche sur l'actualité africaine récente et c'est assez frappant de voir les contrastes.
Oui, bonjour. D'un côté, on a des transitions politiques, des changements majeurs, et de l'autre, des situations beaucoup plus préoccupantes.
Exactement. On va regarder ça de plus près avec les infos d'Africa Presse. On parlera du Gabon, du Togo, mais aussi de la liberté de la presse et d'une crise au Soudan du Sud.
C'est ça. L'idée, c'est un peu de décrypter, de voir ce qu'il y a derrière les annonces. Est-ce que ces changements sont profonds? Est-ce que c'est juste une façade? On va essayer de comprendre les dynamiques.
Ok, alors commençons par les gros changements politiques du 3 mai. Au Gabon d'abord. Brice Oligui Nguema a prêté serment. C'est censé marquer la fin de la transition après le coup d'État d'août 2023. Il a été élu, avec un score très très élevé, 94,85%, le 12 avril. Et il y a une nouvelle constitution, la 5e République.
Oui, et la cérémonie d'investiture était assez impressionnante apparemment. C'est clair que le symbole est fort, on revient à un ordre constitutionnel.
C'est ce que dit le pouvoir en place, oui.
Et le facilitateur de la CEAC, le président Touadéra, a même parlé d'un processus exemplaire. Donc l'espoir affiché, c'est vraiment la stabilisation après la période de troubles.
Mais bon, cette image de retour à la normale, ce score, est-ce que ça garantit vraiment une démocratisation durable? Surtout quand on regarde le même jour ce qui s'est passé au Togo.
Ah oui, là le contraste est saisissant. Au Togo aussi, on est passé à une 5e République le 3 mai. Mais c'est suite à une réforme constitutionnelle très différente.
Comment ça?
Ils ont instauré un régime parlementaire et du coup, Faure Gnassingbé, qui était président, devient président du Conseil. En gros, il garde l'essentiel du pouvoir exécutif.
Ah d'accord. Et il y a quand même un président de la République.
Oui, Jean-Lucien Xavier de Thauvé, élu par le Congrès. Mais son rôle semble être, disons, surtout honorifique. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct.
Je vois.
Exactement. Donc ce régime parlementaire, ça veut dire que le pouvoir exécutif réel, il vient de la majorité au Parlement. Et dans le contexte actuel au Togo, ça revient à concentrer le pouvoir dans les mains du président du Conseil, donc de Faure Gnassingbé.
Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle en dit?
Forcément, elle critique. Elle parle de recul démocratique, de consolidation du pouvoir de la famille Gnassingbé, qui est là depuis longtemps.
Donc si je résume, Gabon, on affiche un retour à la normale après une rupture. Togo, on change les règles du jeu pour potentiellement renforcer un pouvoir déjà en place.
C'est ça. Deux trajectoires institutionnelles vraiment très très différentes qui se dessinent. Fascinant d'une certaine manière.
Et cette question du jeu démocratique et de la place du débat, ça nous amène naturellement à ceux qui sont censés l'animer. Les journalistes.
Le 3 mai, on le disait, c'était aussi la journée mondiale de la liberté de la presse. Et là, les infos d'Africa Presse sont plutôt sombres pour certains pays.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La liberté de la presse est cruciale pour la démocratie et on voit des menaces croissantes. Au Cameroun, par exemple, oui, on pense évidemment au cas terrible de Martinez Zogo, assassiné en janvier 2023. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une sorte d'autocensure, par exemple sur l'âge du président Biya, et puis la pression du CNC. Le Conseil national de la communication.
Tout à fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Au Bénin, on note des sanctions de la AAAC, l'autorité de régulation, contre des médias indépendants. Et il y a des inquiétudes sur la révision du code du numérique qui pourrait encore restreindre la liberté d'expression.
Et au Tchad aussi, apparemment.
Oui. Au Tchad, c'est le cas du journaliste Olivier Monodji qui inquiète. Il est détenu depuis près de 2 mois, sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans charge claire. Beaucoup y voient une tentative de le faire taire.
C'est terrible.
Ce sont des méthodes différentes, voyez. La violence brute au Cameroun, des outils plus légaux, administratifs, au Bénin et au Tchad. Mais le résultat est un peu le même. Faire pression sur les journalistes.
Bah oui.
Et le message des défenseurs de la presse, il est simple et fort. Ta place d'un journaliste, ce n'est pas la prison. Ce qu'on observe souvent, c'est un lien entre des régimes, disons, plus autoritaires ou des contextes politiques tendus et cette répression des médias.
C'est un indicateur, en fait.
Exactement. C'est un indicateur clé de l'état réel de la démocratie, parfois bien au-delà des belles constitutions ou des réformes affichées.
Et cette fragilité, elle n'est pas que politique ou médiatique. Elle est aussi terriblement humaine. Faut qu'on parle de ce drame au Soudan du Sud.
Oui. Une nouvelle absolument effroyable. Le 3 mai également, un hôpital de Médecins Sans Frontières, MSF, à Old Fangak, a été bombardé.
Bombardé, mais...
Oui. Le bilan est lourd. Au moins 7 morts, 20 blessés. Et l'hôpital, la pharmacie, le matériel, tout est détruit ou endommagé.
C'est un coup terrible. Surtout que cet hôpital, d'après ce que j'ai lu, il desservait... Combien ? Plus de 40 000 personnes.
C'est ça. C'est une catastrophe dans la catastrophe. Le Soudan du Sud est déjà plongé dans une crise humanitaire terrible depuis son indépendance en 2011, avec des conflits qui n'en finissent pas.
Et là, on attaque un hôpital.
C'est une violation flagrante du droit international humanitaire. MSF l'a condamné très fermement et à juste titre. Ça pose la question vraiment cruciale de la protection des civils, des structures médicales, des humanitaires.
Si même les hôpitaux ne sont pas sûrs.
Où trouver refuge?
C'est ça la question.
Alors si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, on a donc des transitions politiques au Gabon et au Togo, mais qui prennent des chemins très différents, voire opposés. On a une liberté d'informer qui est clairement sous pression, voire attaquée dans plusieurs pays.
Oui.
Et puis on a la réalité brutale des conflits comme au Soudan du Sud qui frappe au cœur même de l'aide humanitaire.
C'est exactement ça. On voit ce grand écart permanent. D'un côté, les discours politiques sur le retour à l'ordre, les réformes, la modernisation.
La stabilité.
La stabilité, voilà.
Et de l'autre côté, la réalité vécue sur le terrain par ceux qui essayent d'informer ou tout simplement de survivre. La vulnérabilité des journalistes menacés, elle fait écho à celle des populations civiles prises dans les crises.
C'est assez sombre comme tableau final.
Oui, et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Au-delà des changements de constitution, des nouvelles républiques, des élections, qu'est-ce qui est vraiment mis en place concrètement sur le terrain?
Pour garantir quoi, au juste?
Pour garantir pas seulement une façade de stabilité politique, mais la sécurité la plus élémentaire, la liberté de parler et l'accès aux besoins de base comme les soins de santé. C'est peut-être là, finalement, que se mesure le vrai progrès.
Une question essentielle, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.